Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne de Radio Ondaine pour ce nouveau numéro de Module Onde, émission proposée par le site Le Corbusier de Firmini et Radio Ondaine. Nous vous proposons une rencontre avec l'artiste photographe Pascal Lemaître. Pour continuer le dispositif Regard sur l'architecture et après une exposition sur les églises du XXe siècle, Pascal Lemaître nous montre le patrimoine sacré, nom de l'exposition à découvrir à partir du 16 novembre en église Saint-Pierre de Le Corbusier de Firmini, autour d'un panorama des édifices religieux en France au 20e et 21e siècle, mettant l'accent sur la pluralité des cultes. Écoutons tout de suite Pascal Lemaître qui nous explique pourquoi il est ici, dans l'église Saint-Pierre, Le Corbusier de Firmini.
Ah, je suis particulièrement heureux de faire cette exposition qui a déjà eu lieu dans plusieurs endroits de France, dans le site Le Corbusier, parce que c'est quand même exactement pour ce type d'architecture que tout le travail a été fait. Et jusqu'à maintenant, je ne l'ai exposé que dans des sites, certes religieux, mais classiques, parce que la première a eu lieu à Reims, dans la cathédrale. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ce n'est pas contemporain. Ensuite, à Cluny, dans le cloître, à Fréjus. Enfin, tous les endroits où il y a eu cette exposition n'étaient pas des endroits contemporains. Et pourtant, c'est un travail sur l'architecture contemporaine, et dans lequel figure justement l'église de Firmini, bien sûr.
Déjà, pourquoi vous êtes photographe et pourquoi ce travail autour de l'architecture et non pas d'autre chose ?
Alors, pourquoi je suis photographe ? Ça, c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre en une minute. C'est venu comme ça. J'étais en fait très, très jeune quand j'ai commencé à développer moi-même des photos dans ma chambre en trimballant mes caisse de révélateur à travers la maison, en me faisant gronder par tout le monde. J'aimais ça. Alors, est-ce que ça a commencé par de la chimie ou par de la photo ? Je ne sais pas. Mais j'ai commencé à faire des photos et à les développer vraiment très jeune. Et puis, après, j'ai un petit peu continué. Et ensuite, j'ai travaillé un petit peu dans la photo publicitaire. Et très vite, je me suis aperçu que ce qui m'intéressait, c'était la photo d'architecture. Mais alors maintenant, je peux remonter plus loin, parce que je peux remonter à ma première photo publiée. Alors ça, c'est une histoire amusante. En fait, j'étais à l'époque en seconde au lycée. Et mes parents savaient que je m'intéressais beaucoup à la photo, puisque je développais les photos de ma chambre, mais prises avec un appareil, avec un Ultrafex en plastique. Enfin, j'avais pas du tout d'appareil. Et un jour, ma mère me dit que un de ses collègues qui était photographe est mort et que sa veuve me donnait son matériel. Alors j'étais aux anges, je me suis dit je vais avoir un splendide Nikon avec tous ses objectifs, parce que le gars était photographe de l'ambassade américaine. Donc on va chez la veuve, là elle arrive avec une énorme valise, je me dis c'est merveilleux là, il y a tous les objectifs possibles, ça va. Et non, c'était une chambre 4-5 inches. Parce qu'à l'époque, pourtant ça ne fait pas si longtemps, mais les Américains continuaient à faire de la photo en grand format. Et donc l'appareil qu'elle me donnait faisait des négatifs de 9 cm sur 10, c'était ce qu'on appelle une chambre, quoi. Bon, j'ai remercié, je suis très content, mais enfin, je ne savais pas trop quoi en faire, quoi. Alors, j'ai été dans une librairie m'acheter un bouquin pour apprendre à me servir de cet engin bizarre, parce que c'est très particulier, hein. Faut mettre les plans film, il faut comprendre des tas de choses. Et en fait, je m'aperçois que cet engin était plus spécialisé pour la photo d'architecture. Bon. Néanmoins, je m'en servais comme ça. Alors, je photographiais mes petites copines du lycée à la chambre. Ça, c'était assez chic, mais bon, fallait poser, puis je ne pouvais pas prendre beaucoup de photos, hein. Et un jour, mon père, lui, il avait une revue d'architecture, mais il ne travaillait pas du tout avec moi, et je l'entends dire qu'il voulait des photos de l'église d'Antony. Il se demandait quel photographe prendre. Et moi, je lui ai dit, je peux essayer, je peux les faire. parce que j'avais lu dans mes petits manuels que c'était quand même un appareil qui décentrait, c'est-à-dire qui redressait les perspectives, et que c'était idéal pour la photo d'architecture. Donc je vais, c'était à l'église d'Antony, je vais à l'église d'Antony avec mon gros machin en métro, bien sûr j'avais pas mon permis, j'avais pas de voiture, je débarque dans l'église avec tout mon gros matos, je m'installe et je fais donc mes premières photos d'architecture là. Et je sais pas si c'est un coup de peau ou quoi, enfin elles étaient réussies, elles étaient vendables. Bon, donc voilà, et c'est très rigolo parce que quand j'ai eu le projet de ce livre, je suis retourné dans cette église, donc dans laquelle je n'étais pas rentré pendant 50 ans, hein, puisque j'étais vraiment très, très jeune quand j'ai fait la photo. Et je me suis remis dans les endroits, j'ai retrouvé les endroits où je m'étais installé pour faire ces premières photos. Puis je les ai refaites maintenant, bien sûr en numérique, avec un autre appareil. Enfin, c'était tout à fait autre chose. Donc voilà mes débuts en photo d'architecture, si vous voulez. Après, j'ai mis un certain temps avant d'en refaire, c'est-à-dire avant d'en avoir la commande, véritablement. Mais très rapidement, je me suis mis à travailler, quand j'ai commencé à être photographe, je me suis mis à travailler pour des musées par goût, parce que j'avais fait aussi des études de lettres, enfin je m'intéressais, disons, à la peinture et au patrimoine. Hein. Donc j'ai commencé à travailler aussi pour des musées. Et là, le conservateur du musée de l'Île-de-France à Sceaux, pour qui j'avais fait des centaines de photos de tableaux, me dit qu'il voudrait faire une exposition sur le patrimoine des Hauts-de-Seine. Alors je lui dis oui, oui, bien sûr, ça m'intéresse tout à fait. Et là, il me passe commande donc de photos de 200 sites patrimoniaux. Et là, ça m'a passionné. Donc j'ai abandonné ce que je faisais avant en photo de studio. Et je me suis dit, je vais me lancer là-dedans, je ne vais plus faire que ça. Donc j'ai travaillé sur cette exposition. Et après, j'ai été voir au monument historique. Et je leur ai dit que je voulais continuer dans cette voie. Et j'ai eu mes premiers reportages au monument historique. Alors là, après, j'ai continué et je travaille encore pour eux. Hein. Là encore, la semaine prochaine, je dois aller faire des photos des gisants de Saint-Denis. Je suis tout content, ça continue.
Alors l'objet de l'exposition, c'est donc les édifices religieux du 20e, qui fait l'objet d'une publication et donc là d'une exposition. Ces édifices religieux, comment on les appréhende en tant que photographe? Qu'est-ce que l'on fait? Est-ce que l'on imagine de représenter le monument, la chose monumentale ou le détail?
En fait, ce qu'il y a de particulièrement touchant dans l'architecture contemporaine, c'est que l'architecte n'est pas loin. Souvent, il est même encore vivant. Et on comprend assez bien ce qu'il a voulu dire, parce que en architecture contemporaine, l'architecte a une vraie importance. Et il a vraiment, si vous voulez, dans une architecture classique, romane ou gothique, elles se ressemblent quand même un petit peu toutes les unes les autres. La liberté de l'architecte n'est pas très grande. Mais là, regardez Firmini, il a complètement inventé, il a fait ce qu'il voulait. Donc, ce qui est excitant, c'est de se mettre un petit peu à la place de l'architecte, c'est de retrouver ce qu'il a voulu dire. Donc en fait, moi j'arrive dans un site, je prends pas mes appareils, je reste souvent assez longtemps, je me balade partout et j'essaye de voir les points de vue, les endroits où je ressens quelque chose, où je ressens une émotion, puis je me dis « Ah ben ça c'est original, ça c'est lui ». Et après, je reviens avec les appareils. Et là, ça peut être des vues générales, ça peut être des vues de détail, hein, ça peut être une plongée sur un escalier, des choses comme ça. Et c'est amusant parce que après, quand je peux rencontrer l'architecte, quelquefois, il me dit « Ah oui, là, vous l'avez bien vu ». Ça, c'est très, très agréable quand on me dit ça. Puis bon, d'autres fois, c'est des vues plus générales qui sont un peu évidentes, si vous voulez, hein, des vues de la nef dans un sens ou dans l'autre. Mais il y a ce côté de retrouver le langage de l'architecte et sa spécificité. Quoi.
Est-ce qu'on se base sur des plans qui sont encore existants ou disponibles ou c'est votre regard, enfin vous l'avez expliqué, hein, c'est votre regard que vous posez, mais est-ce qu'il y a d'autres éléments, peut-être aussi les pratiques, les endroits dans lesquels les gens s'installent qui vous attirent l'objectif ?
Ah ben oui, il faut connaître un petit peu la liturgie quand même, parce que sur l'architecture contemporaine, il y a eu le passage de l'église à Vatican II, et là, bien sûr, il faut comprendre, parce que quand l'Église a demandé une participation des fidèles, les architectes ont compris ça. Ils ont cherché à rendre la possibilité d'un dialogue entre les fidèles et le célébrant. Donc ils ont cherché des nouvelles formes, hein, ou des formes en amande, ou des formes rondes, ou des formes où la chair est peut-être au milieu des fidèles. Enfin, il faut comprendre un peu pourquoi il a fait ça. Donc, c'est sûr, il faut une compréhension du rite, et aussi pour les autres religions, parce que n'oublions pas que ce travail concerne toutes les religions en France et pas du tout que la religion catholique. Alors, effectivement, comme je m'intéresse aussi en grande partie au geste architectural, c'est-à-dire à la possibilité d'innovation, parce que ça a été mon critère. Si vous voulez, depuis le début du XXe siècle, il y a eu 3000 églises construites en France. Donc, il faut choisir. Donc mon critère, ça a été l'inventivité. Après, on en parlera tout à l'heure en ce qui concerne le béton, les matériaux. Mais après Vatican II et après ces discours justement d'ouverture, il y a eu une explosion de recherche de formes dans tous les sens pour la religion catholique qui n'y a pas eu dans les autres religions qui sont restées plus traditionnalistes parce qu'elles n'ont pas vécu cette révolution de Vatican II de leur côté, quoi.
Alors, on en vient à l'exposition qui sera visible à partir du 16 novembre ici en église Saint-Pierre de Le Corbusier. Qu'est-ce que vous avez sélectionné finalement ? Est-ce que cette exposition qui a déjà existé, qui a déjà été visible, est-ce que ce sont les mêmes photos ? Est-ce que vous en rajoutez ? Et puis, comment on procède à l'installation dans un lieu tel que celui-ci ?
Ah, l'installation, elle n'est pas encore faite. Hein. Vous arrivez là, donc je suis pas inquiet, mais on va les disposer autrement. Alors, le fait est que j'ai refait complètement le parcours par rapport aux matériaux, parce que l'église de Firminy est en béton, et ça a été mon axe d'accrochage sur cette exposition-là. Parce que, le béton, c'est vraiment le matériau du XXe siècle. Ça a été très décrié parce que c'est en béton qu'on a fait les barres d'habitation. Mais on n'a pas fait que ça quand même, bien heureusement, en béton. C'est un matériau merveilleux qui permet énormément de création de voiles de béton en hauteur, j'allais dire de voûte, mais pas tout à fait, parce que justement, la particularité du béton, c'est qu'on n'est pas obligé de faire des voûtes, si vous voulez. On peut faire des structures très hautes, mais comme le béton est autoporteur, quand il y a une poutre, elle repose des deux côtés, il n'y a pas besoin de contrefort. Il y a, comme dans une église traditionnelle où il y a des voûtes, et puis de deux côtés, il y a des contreforts pour pas que ça tombe. Hein. Et en béton, on n'a pas besoin de faire ça. Donc ça permet une beaucoup plus grande liberté de création. Et donc là, j'ai fait un plan en mettant les créateurs qui se sont servis du béton pour faire des formes totalement nouvelles. Ensuite, ceux qui se sont servis du béton, mais en respectant le plan classique. Ensuite, j'ai un troisième chapitre sur ceux qui ne se sont pas servis du béton, justement, qui ont travaillé en bois ou en fer ou en verre. Et quand je dis en verre, c'est aussi en vitrail, c'est-à-dire qu'il y a aussi toute une création du XXe siècle où c'est la lumière qui compte avant tout.
Alors justement, quand on parle de lumière, le vitrail, ce travail bien spécifique, on en a un exemple pas très loin d'ici, c'est à Conques par exemple, où Soulages avait réalisé tous ces vitraux qui, eux, n'étaient pas très colorés. Est-ce que ça fait partie de votre exposition aussi ? Est-ce que vous êtes dit finalement, ces éléments architecturaux que je vais prendre, je vais aussi les associer à alors, je vais employer ce terme-là, mais à la décoration.
Alors là, c'est beaucoup plus que ça, hein, parce que il faut voir le sujet. On dit sujet aussi, ça dépendait. Donc, qui est le personnage qui a créé en quelque sorte l'architecture gothique, hein, et qui a fait construire la cathédrale de Saint-Denis. Donc, pour lui, l'église romane est une structure fermée, hein, fermée sur la prière, où on se concentre, si vous voulez, sur la prière. Et lui voyait au contraire la nécessité de faire des églises avec des grandes verrières, avec des vitraux, et ces vitraux servent dans les deux sens. Qu'est-ce que je veux dire ? C'est-à-dire que d'un côté, on a si vous voulez, la parole, l'Esprit Saint, ce que vous voulez, qui va passer au travers des vitraux, donc où la lumière est transformée par la couleur et venir sur les fidèles. Et d'un autre côté, on a la prière qui va passer aussi à travers les vitraux et qui va monter au ciel, colorée et magnifiée par les vitraux. Hein. Donc c'est une espèce de surface osmotique qui marche dans les deux sens et qui a une fonction religieuse. Hein, ce n'est pas du tout de la décoration. Alors, on a encore ça maintenant. Il y a effectivement un certain nombre d'églises modernes où l'échange osmotique, si vous voulez, de la lumière a ce sens.
Alors, on revient à votre exposition. Quel format vous proposez ? Est-ce que ce sont des formats similaires ? Est-ce qu'il y a différents formats ? Et si c'est le cas, pourquoi choisir ces différents formats ?
Il y a un format de base qui est un format d'exposition, qui est un format qui permet de voir la photo à 1,50 m. Et là, j'ai modifié aussi la perspective en mettant aussi des petites photos à côté pour qu'on se rapproche, qu'on puisse se rapprocher ou s'éloigner du mur pour ne pas rester à la même distance uniforme. Et puis, dans la dernière salle, il y a une quinzaine de très grands formats qui sont faits pour être vus de loin et pour donner une certaine ambiance. Et ils ne sont pas faits pour qu'on s'en approche.
Et ici, dans cette église Saint-Pierre-le-Corbusier, quel est votre sentiment par rapport à ce lieu ? Vous l'avez évoqué un peu en début de rencontre, comme étant quelque chose d'unique en son genre, mais surtout d'irréel peut-être à la première approche, c'est-à-dire qu'il ne ressemble à rien d'autre. Comment vous appréhendez-vous ce lieu-là ?
C'est tout à fait extraordinaire. En fait, j'allais employer le mot magique, c'est quand même pas très gentil pour le culte, on va dire transcendant. Mais il y a des endroits, il y a des lieux qui sont transcendants. C'est-à-dire que quand on rentre dedans, on est embarqué, un peu comme dans un vaisseau spatial, voilà, vers ailleurs. Et ça, curieusement, je dis curieusement parce qu'il n'était pas croyant du tout, Le Corbusier a su le faire plusieurs fois. Ronchamp, par exemple, est un endroit où on est embarqué. C'est comme ça. Alors, il y a d'autres architectures qui me font cet effet-là. Bien sûr, dans des architectures classiques, hein, on peut dire que il y a pas mal d'églises romanes aussi, où quand on rentre dedans, on est coupé du monde, et puis on oublie tout. Hein, on est dans un autre monde, et voilà. Je ne peux pas dire autre chose que ce que la transcendance. Hein. Et ça, j'ai ressenti ça fortement la première fois que je suis rentré dans l'église Saint-Pierre de Firminy. Oui, absolument. Alors, je ne sais pas à quoi c'est dû. C'est très mystérieux. C'est une question de forme. On est dans un espèce... On ne peut pas dire dans un cocon. En tout cas, le fait que ce soit une forme complètement nouvelle y contribue. C'est très fort. Pour moi, il y a une sensation physique qu'on ressent dans ce lieu, oui.
Quand on regarde et qu'on imagine votre travail, et que vous revenez un peu sur les années de photographie de ces lieux cultuels, on peut avoir aussi un regard un peu d'historien. Est-ce que vous l'acceptez, ce regard d'historien, ou vous êtes simplement le témoin de ce qui existe ?
Oui, je l'ai pas tellement. Il y a bien sûr, il y a une histoire de la religion par rapport par rapport au bâtiment et même une histoire politique, parce que par exemple, je me sens assez mal dans la plupart des églises du 19e, qui donc ont été faites avant la séparation de l'Église et de l'État. C'est-à-dire que c'est des églises d'État où l'architecte était choisi par l'État et donc avec une inventivité minimum, parce que c'est un peu comme ça dans beaucoup de bâtiments publics à l'époque, et je trouve que très souvent on n'y ressent rien.
Alors au-delà de, par rapport à ma question que je viens de vous poser, du côté historien, est-ce qu'il y a le côté guide aussi? Est-ce que vous avez aussi finalement défini, établi par rapport à cette exposition, votre publication, un petit guide de ces monuments remarquables, cultuels en France?
Ah ben, y a une histoire à raconter pour presque toutes les photos, oui, bien sûr. Ces églises ont leur particularité de construction, de financement. C'est quelquefois très amusant.
On touche à la croyance des gens quand on fait ça aussi, quand on prend ces lieux de culte qui, selon sa personne, peut avoir différentes importances. Est-ce que là aussi, on s'impose une sorte de pudeur par rapport à ce qu'on prend ?
Ah bah faut faire attention, oui. Faut faire attention.
Tout est prenable ou des choses sont simplement là et existent pour être vues mais pas développées, pas posées sur un papier photo.
Oui, il faut être respectueux du site. Forcément, moi, souvent, quand j'ai fait ce livre, par exemple, je vous ai dit qu'il y avait 3000 églises. Donc on en a choisi 50, bien sûr. J'en ai visité beaucoup, beaucoup plus. Il y en a beaucoup où je n'ai rien fait. Oui, je suis sorti pudiquement sans faire de photos, oui.
Alors la suite de votre travail, est-ce qu'il y a des projets toujours dans le même esprit ou d'autres projets ?
Alors, il y a une chose particulière aussi dans l'exposition de Firmini que j'ai fait effectivement aussi dans chaque fois que je présente cette exposition. Il y a une extension sur les sites locaux. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir arpenter le département et photographier une dizaine de lieux de culte. Pas que catholique, et de faire donc des découvertes des architectes qui ont travaillé par ici, que je ne connaissais pas, et qui sont exposés dans une salle spéciale. Et donc ça, j'avais fait ça aussi dans la dernière présentation en Savoie. Il y avait un gros travail sur les églises de Savoie-Haute-Savoie qui n'est pas exposé ici, bien sûr.
Sur quoi travaillez-vous en ce moment ?
Ah, bah, l'avenir, c'est tout à fait autre chose. Là, j'ai proposé au ministère de la Culture, en vue des Jeux Olympiques, un travail sur l'architecture et le sport. Donc, je me suis aperçu que, les architectes avaient pas mal travaillé sur le sport et de façon très intéressante depuis très très longtemps. Et il n'y avait aucun livre sur le sujet, c'était pas développé. Donc, je pars là-dedans. Et bien sûr, il y aura le stade et la piscine de Firmini dans le livre. Mais c'est autre chose.
Et Louis Spédel, de nous expliquer les modalités pour venir voir cette exposition de Pascal Lemaître.
Alors oui, l'exposition, elle est visible à partir du 16 novembre jusqu'au 8 mars 2020. Et vous pouvez venir la voir les vendredis, samedis et dimanches. Et nous aurons également une rencontre avec Pascal Lemaître, le photographe de l'exposition, qui aura lieu le samedi 16 novembre à 16h. On est ouvert de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h. L'exposition est visitable libre. Ensuite, vous avez des visites guidées qui ont lieu tous les dimanches à 14h30 et 16h.